nous avons dans cette deuxième partie de la matinée deux conférences de 30 minutes chacune et à la fin les conclusions qui seront faites par François Bignon. Le premier conférencier, c'est M. Enrico Vassan Giacomo, qui va nous parler d'un des protagonistes suisses de l'histoire de la Croix-Rouge, Walter Sali, et je vous laisse la parole.
Merci. Walter Sali est né à Berne le 20 janvier 1860 dans une famille en vue. Son père, membre influent du parti radical bernois, était conseiller d'État quand Walter Sali est venu au monde. Les études gymnasiales terminées, Sali entreprend des études de médecine à l'université de sa ville, études qu'il terminera à Lausanne où il sera également l'assistant de César Roux. Pour parfaire sa formation, il se rendra à l'étranger, on ne sait pas exactement où, peut-être en Allemagne, où allaient beaucoup de médecins suisses terminer ou se parfaire, perfectionner leur formation. Contrairement à son frère Hermann, de 4 ans son aîné, qui après son diplôme de médecine a choisi la carrière universitaire, Walter préfère exercer la médecine comme praticien. Et en 1885, à l'âge de 25 ans, il entre à l'hôpital de district de Langenthal. Dans cette contrée rurale, au nord-ouest du canton de Berne, Sali entre en contact avec une misère populaire qu'il ne soupçonnait pas. Et l'humanité dont il a fait preuve, notamment vis-à-vis des patients pauvres qui venaient à son cabinet, et le bien-être qu'il a su instaurer dans cet hôpital, on dira à ce propos « Dank der sympathischen Leitung », lui vaudront la reconnaissance de toute la population de l'endroit. D'après le témoignage de ses amis, la vue de l'indigence dans laquelle se trouvait une bonne partie de cette population a provoqué chez Sali une remise en question de ses convictions politiques radicales. À cela ont aussi contribué les nombreuses conversations avec son ami et confrère Burkhalter, médecin féru de sociologie et de théorie sociale, et surtout les articles de Albert Steck, directeur du Schweizerischer Sozialdemokrat et fondateur en 1888 du Parti social-démocrate suisse renouvelé. Nous pouvons aussi nous demander si, à un niveau plus ponctuel, la ferme opposition du parti radical au postulat socialiste pour des soins infirmiers gratuits pour les pauvres n'a pas joué aussi un rôle, vu que lui, dans son cabinet, il recevait beaucoup de ces pauvres personnes, de ces paysans surtout, qui avaient juste le minimum pour vivre et donc il devait vraisemblablement les soigner gratuitement. C'est donc ici à Langenthal, au contact de la Suisse profonde, qu'il adhérera au Parti social-démocrate. Mais la façon dont il a vécu ce choix est aussi révélatrice de la personnalité de Sali. En effet, il ne s'est pas lancé dans l'arène politique comme d'autres médecins de son époque, mais il a manifesté son engagement par son activité quotidienne de médecin. Les années passées à Langenthal le verront très actif aussi dans l'amélioration des soins aux malades et dans celle des conditions de travail à l'hôpital, dont il a été le médecin-chef. De ces initiatives clairvoyantes, les contemporains se rappelleront encore 30 ans plus tard. Une de ces initiatives retient en particulier notre attention, celle d'organiser des cours de garde malade auprès de la section locale des Samaritains, car ils ne supportaient pas que des soignantes incultes fassent souffrir inutilement des patients. Voilà qui est cet homme qui a quitté, après 13 ans, Langenthal, pour s'installer le 1er mai 1898 à la tête du secrétariat central suisse des secours sanitaires volontaires. Qu'est-ce que c'était ce secrétariat central suisse des secours volontaires? Les sociétés qui, pendant l'été 1897, décident de mettre sur pied le secrétariat central suisse des secours volontaires sont les suivantes. La Société suisse des Samaritains, la Société suisse des troupes sanitaires et la Société centrale suisse de la Croix-Rouge. À la base de cette décision, il y avait le désir de décharger les présidents respectifs des tâches administratives comme la gestion, l'information, la propagande, afin de leur laisser, de laisser à leur président les mains libres pour développer l'activité de la société. Or, si les deux premières, c'est-à-dire les Samaritains et les militaires, n'avaient pas de problème particulièrement sérieux, il en allait autrement pour la Société Centrale Suisse de la Croix-Rouge. En effet, pendant longtemps, la réalisation d'un de ses objectifs majeurs, à savoir la formation de gardes-malades pour secourir les soldats blessés en temps de guerre, a connu de sérieuses difficultés. D'abord, elle a démarré tardivement, de façon hésitante, imparfaite, et puis ses sections, d'un canton à l'autre, étaient trop disparates dans leur organisation. Ce jugement que je viens de donner nécessite une brève explication. La première Croix-Rouge suisse, fondée en 1866 par le général Dufour et le conseiller fédéral Jakob Dubs, sous le nom de Association de secours aux militaires suisses et à leurs familles, n'a jamais organisé, que je sache, des cours pour gardes malades. Fermement convaincu que les secours sanitaires pouvaient s'organiser rapidement en cas de besoin, les membres de cette première Croix-Rouge suisse se sont plutôt limités à préparer du matériel sanitaire. D'ailleurs, l'assistance qui était mise sur pied lors de l'entrée de l'armée du général Bourbaki aux Verrières en février 1871 aurait pu faire penser à la justesse d'un tel sentiment. L'idée d'organiser des cours de gardes malades sous l'égide de la Croix-Rouge est surgie une quinzaine d'années plus tard, lorsqu'un pasteur zurichois, déterminé à résoudre le problème des soins aux pauvres et aux classes laborieuses, un chapitre de la fameuse question sociale, a vu dans la Croix-Rouge la réponse idéale à cette situation. Croyant de bonne foi qu'une société Croix-Rouge n'existait pas en Suisse, de l'aveu même des responsables de l'association, celle-ci avait cessé toute activité ou s'était endormie, ce pasteur lance un appel aux nombreuses sociétés philanthropiques suisses, les exhortant à se réunir pour créer la Société Centrale Suisse de la Croix-Rouge. Et cela se fera en avril 1882. Dans l'esprit de ce pasteur et dans les statuts, cette société devait devenir un réseau de services infirmiers, ein Netz von Stationen für Krankenpflege. Mais à Walter Kempin, tel était le nom de ce pasteur, manquait le sens de l'organisation. Si les articles publiés dans son journal Der Philanthrope étaient pleins de bonnes idées, Kempin n'a pas su quitter sa table de rédacteur, qui était un peu sa chaire de pasteur, pour veiller à ce que le réseau tant souhaité prenne corps. Ainsi, face à la déception qui s'empara peu à peu de plusieurs sociétés membres et qui obligea Kempin à démissionner en 1885, la direction de la Croix-Rouge suisse biffa de ses statuts la formation des gardes-malades, croyant éliminer par là la cause de ses difficultés. Se réorganisa sous forme de section et choisit de se cantonner dans la récolte de fonds. Toutefois, l'objectif de la formation de gardes-malades n'a pas disparu totalement de l'esprit de ceux à qui tenait à cœur la cause de la Croix-Rouge. À partir de la deuxième moitié des années 1880, se sont créées des sections Croix-Rouge avec ce but dans leur statut. C'est le cas par exemple de la section de Winterthur, fondée en 1887, et qui met sur pied un cours de 3 mois. On sent qu'à partir de ces années, en Suisse, l'intérêt de la population pour les soins va croissant. L'organisation de cours de soins est, pour certaines de ces sections, la condition sine qua non pour gagner le soutien de la population. Et puis il y avait le contexte international. Un des leitmotifs de la 5e conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Rome en avril 1892 était la formation de brancardiers et de gardes-malades. Le comité central de la Croix-Rouge allemande y avait insisté pour que les gardes-malades, je cite, « se rendent aussi utiles que possible déjà en temps de paix ». Fin de citation. Ce point accepté par les délégués de la conférence et les réalisations modestes mais concrètes de quelques sections de la Croix-Rouge suisse relance la discussion au sein de la Société centrale à Berne qui décide en 1893 de mettre à nouveau à l'ordre du jour de telles cours, cette fois dans les hôpitaux, au lit des malades, sous la conduite de médecins. Était-ce enfin la bonne solution ? Non. Excellente sur le papier, son organisation montre vite les limites de ses cours. Parmi les causes qui ont miné leur réussite, citons en trois. Des hôpitaux favorables au début se montrent après coup réticents pour manque de place, disent-ils. Des élèves qui refusent, une fois le cours terminé, de se mettre à disposition de la Croix-Rouge suisse. Enfin, les organisations confessionnelles qui, depuis longtemps, s'occupaient des soins aux malades, donnaient volontiers des cours aux jeunes femmes qui acceptaient d'entrer ensuite dans les ordres. Un rapport présenté à la direction de la Croix-Rouge suisse en 1899 met dans sa vraie lumière les défauts de ces cours. J'en extrais quelques lignes, je cite. « Ils ne permettent pas le juste choix des candidats. L'enseignement théorique manque totalement. La formation dans les hôpitaux est très inégale. La Croix-Rouge n'a aucun contrôle sur les participants aux cours. Plusieurs d'entre eux ne trouvent pas d'occupation dans les soins aux malades et s'en retournent par conséquent à leurs anciennes activités. » L'auteur de ce rapport n'est autre que Walter Sali. Il était installé depuis moins d'une année au secrétariat central. Quelle conclusion tire-t-il ? La même que d'autres de ses confrères avaient déjà tirée, à savoir la nécessité de former des gardes-malades dans une école rattachée à un hôpital selon un programme établi par un médecin et sous la direction de ce dernier. Ainsi, en 1891, déjà, le docteur Charles Kraft est nommé directeur de la Source à Lausanne. En 1896, au Congrès suisse des intérêts féminins à Genève, Anna Heer, femme médecin de Zurich, présente son projet d'école de gardes-malades, projet qui se concrétisera en 1901 avec l'ouverture de l'école de gardes-malades de l'Association d'utilité publique des femmes suisses, mieux connue à Zurich sous le nom de Pflegi. En 1899, le docteur Augustus Lüding prend les rênes de l'école Croix-Rouge de Zurich-Fluntern, école qui n'a rien à voir avec la Croix-Rouge suisse. Et à cette même année, après avoir présenté son bilan des cours d'hôpital, Sali propose à la direction de la Croix-Rouge suisse de créer une école. La direction accepte et en novembre 1899 s'ouvre celle qui sera par la suite mieux connue sous le nom d'école du Lindenhof. Ici, j'ouvre une brève parenthèse sur la médecine moderne pour mieux situer la pensée de Sali. Tout au long du XIXe siècle, mais en particulier pendant sa deuxième moitié, la médecine a fait de grands progrès, grâce à la méthode expérimentale, dans l'étude des fonctions organiques et de leur pathologie. Si nous y ajoutons les découvertes de la microbiologie, Louis Pasteur, pour nommer qu'un grand, et de la chimie, par exemple celle du phénol, puissante antiseptique par l'Allemand Joseph Lister, nous comprenons sans doute mieux le rôle de leader assumé par le médecin dans la sphère des soins. Et nous comprenons aussi qu'il devait de moins en moins tolérer de travailler, à l'hôpital en particulier, avec du personnel soignant dont la formation et l'état d'esprit ne correspondaient plus aux nouvelles exigences de la médecine. Par exemple, la nonne avec son habit qu'elle ne changeait jamais, ou la garde malade formée sur le tas. Pour garantir des soins efficaces, pour éviter des erreurs lourdes de conséquences, pour réduire ou éliminer des décès dus à des infections, etc., il fallait un personnel soignant mieux formé, c'est-à-dire formé selon un programme établi par les médecins. Voilà donc pourquoi Sali a proposé à la direction de la Croix-Rouge suisse l'ouverture d'une école. Avait-il ce but déjà dans sa tête quand il a quitté Langenthal ? On ne sait pas. Une chose peut-être toutefois retenue comme très probable. Derrière sa décision de revenir à Berne, il y avait le désir de réaliser un dessin qui aurait eu des effets de plus ample portée que son activité dans un hôpital. En s'intéressant à cette place, Sali savait que la Croix-Rouge suisse, à savoir la société qui l'occupait le plus au sein du secrétariat central, était tenu par ses statuts à collaborer avec les organes dirigeants de l'armée et former des gardes-malades dans l'éventualité d'une guerre. Cependant, dans un article d'octobre 1898, Sally affirme que si les efforts jusque-là déployés pour recruter des volontaires avaient rencontré indifférence et incompréhension, c'était peut-être à cause de la justification avancée, à savoir la situation exceptionnelle d'une guerre, éventualité à laquelle la population suisse ne se sentait peut-être pas directement menacée. Or, lui, Sally, grâce au nouveau domaine d'activité en temps de paix, souhaitait donner à la Croix-Rouge suisse une nouvelle impulsion, notamment en mettant sur pied une organisation de soins infirmiers professionnels, organisation qui couvrirait tout le pays. Lors des débats qui ont suivi cette prise de position, il est intéressant de remarquer l'idée différente que se faisaient du public cible les sections de la Croix-Rouge suisse d'un côté et Sally de l'autre. Pour les premières, le public était la population, dont l'intérêt avait peu à peu diminué. Pour le deuxième, c'était les femmes qui souhaitaient faire des soins aux malades leur métier. Cela dit, on peut se demander si son projet d'école allait entraîner des modifications à cet engagement vis-à-vis de l'armée. La réponse est non, mais le nouveau cadre où s'inscrit cet engagement, c'est Sally qui l'a dessiné, avec le résultat qu'on va voir. Au mois de mai 1900, Sally présente au département militaire fédéral un mémorandum avec des propositions visant à assurer ses engagements déjà en temps de paix, et il demande pour cela un soutien financier de 25 000 francs. Or, peu de mois plus tard, Anna Ehr, s'apprêtant à ouvrir son école d'infirmière à Zurich, demande elle aussi un subside à la Confédération. Le chef du département militaire fédéral, Eduard Müller, charge alors le médecin-chef de l'armée, Alfred Murset, de trouver une solution qui soit profitable non seulement à une ou deux écoles, mais à l'ensemble des secours volontaires. C'est ainsi que Sally, associée à la réflexion, en vient à proposer l'année suivante une solution qui prendra corps dans l'arrêté fédéral du 25 juin 1903. Cet arrêté permettra le subventionnement des écoles d'infirmières garantissant une bonne formation et la mise à disposition du service sanitaire militaire de leurs diplômés. Cet arrêté prévoit enfin que la Croix-Rouge suisse soit l'institution chargée de distribuer la subvention fédérale aux écoles, non sans un contrôle préalable et annuel de sa part, contrôle auquel les écoles se soumettent de bonne grâce, vu que la somme allouée correspond en moyenne au quart de leur budget. La Croix-Rouge suisse devient ainsi l'institution de référence à qui il incombera de fixer les paramètres à respecter pour être une bonne école donnant une bonne formation. Les hôpitaux suisses et d'autres institutions s'occupant de soins pourront ainsi compter sur un personnel soignant nouveau, l'infirmière professionnelle, au façonnement de laquelle Sally a été la cheville ouvrière. Les efforts fournis par Sally pour sortir la Croix-Rouge suisse de l'ornière d'une conception philanthropique des soins et les succès remportés en engageant cette même Croix-Rouge suisse vers une conception plus scientifique, plus complète, bref, plus professionnelle de la formation des gardes malades, ne doivent pas limiter la perception que l'historien cherche à avoir de cet homme. Sally, en effet, a eu assez tôt l'occasion de faire preuve d'une vision large quant au champ d'activité possible de la Croix-Rouge suisse. Considérer ces initiatives comme secondaires et ne retenir que la formation des gardes malades nous empêcherait de saisir toute la richesse de sa personnalité. Voici succinctement les plus saillantes. En décembre 1899, suite à l'éclatement de la guerre entre les Boers et les Anglais en Afrique du Sud, Sally organise une collecte en faveur des victimes et une mission médicale. En décembre 1908, la Sicile est secouée par un tremblement de terre. Tout au long de l'année 1909, Sally envoie des secours, d'urgence d'abord, et ensuite pour la reconstruction. Aux archives fédérales de Berne, où sont déposés les actes de la Croix-Rouge suisse, il y a une enveloppe très grosse comme ça, avec des photos de la reconstruction de Messine, d'un quartier, ce qu'on a ensuite appelé le quartier sud de Messine, eh bien, Sali, d'accord avec des entreprises et des menuisiers suisses, a fait envoyer, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de chalets. Et donc on voit, il y a des belles photos, on voit dans la partie haute de Messine, des chalets, on se dirait dans l'Oberland bernois, mais non, on est en plein Sicile. Dans le cadre de ces secours, un fait est révélateur de la bienveillance clairvoyante de notre médecin. Des décombres de Messine, les sauveteurs ont sorti vivant un enfant de 6 ans, seul rescapé de sa famille. Informé de la chose, Sali fait ouvrir un carnet d'épargne de 1000 francs à la banque cantonale bernoise en faveur de cet enfant, somme prélevable dès qu'il aura atteint la majorité. Effectivement, quand il a atteint la majorité, ce jeune a prélevé l'argent et il y avait 1700 et quelques francs sur ce carnet, c'est-à-dire c'était une époque où les intérêts étaient encore assez hauts. En 1912, dès l'éclatement du conflit entre la Turquie et la Grèce, la Croix-Suisse organise ici aussi des collectes et des missions médicales. Enfin, une initiative dont on n'a pas souvent parlé et qui mérite d'être mentionnée, c'est celle de la collaboration entre la Croix-Rouge suisse et le Club alpin suisse. Étant donné que les accidents dans nos montagnes devenaient toujours plus fréquents, de 1892 à 1902, les décès d'alpinistes étaient passés de environ 15 à 60 par année, le président du Club alpin suisse, le docteur Bossart, soumet à Sali un projet d'organisation de secours en montagne. Bossart souhaitait que des cours soient donnés aux guides de montagne par des sections de la Croix-Rouge suisse ou par des sections de Samaritain. Une semaine plus tard, le 1er mars 1903, Bossart informe les autres membres du comité central du Club alpin suisse de la disponibilité de Sali. Selon ce dernier, c'est tout à fait opportun que la Croix-Rouge, les Samaritains et le CAS collaborent dans cette œuvre de secours qui allait se révéler d'une grande utilité. Je ne peux pas oublier de mentionner, comme dernier exemple, un fait qui illustre un autre aspect très moderne de la sensibilité Croix-Rouge de Sali. En 1905, suite à l'échec de la tentative révolutionnaire russe de cette année-là, se crée dans notre pays un comité de soutien au-dessus des partis aux victimes de la répression tsariste réfugiées en Suisse. Sali sera membre de ce comité. J'arrive ainsi à ma conclusion. Walter Sali a dû quitter prématurément son poste de secrétaire général de la Croix-Rouge suisse. Dans sa lettre de démission du 25 septembre 1915, il dit que sa maladie, qu'il souffrait de myopathie, avait fait de tels progrès qu'il ne se sentait plus la force de faire face à ses tâches. Mais le fait, dit-il, je cite, d'avoir donné le meilleur de moi-même pour une noble cause et non sans un certain succès, citation, lui rend cette retraite forcée pas trop pénible. Il mourra le 15 novembre de l'année suivante. Si nous essayons maintenant de situer Walter Sali dans l'histoire de la Croix-Rouge suisse et dans celle de son pays, nous pouvons dire ceci. Walter Sali a été le premier responsable de la Croix-Rouge suisse à faire de sa tâche une activité à plein temps. Il a créé une fonction, celle de secrétaire des secours volontaires d'abord et celle de secrétaire général de la Croix-Rouge suisse ensuite. Ses prédécesseurs, soit ils étaient des personnalités en vue dont l'autorité suffisait à gagner des adhésions, le général Dufour par exemple, ou le conseiller fédéral Jakob Dupps, mais ne faisaient pas de la Croix-Rouge suisse leur activité principale, soit ils étaient des personnes qui, bien que mues par de bonnes idées, n'ont pas su s'y prendre convenablement pour les réaliser. C'est le cas du pasteur Kempin. Sali montre en revanche d'avoir, pour reprendre ses mots, un plan de travail et des buts bien clairs. Je viens de dire qu'il a créé la fonction de secrétaire général de la Croix-Rouge suisse. Oui. Mais cette fonction, il ne l'a pas exercée comme un quelconque haut fonctionnaire. Il n'y a rien de fonctionnaire chez lui, car il n'embrasse pas de dossier. En revanche, il fait face à des problèmes qui se posent au fil des ans et des événements, et y apporte, dans la recherche d'une solution, le feu sacré de l'homme humanitaire. Par son activité, il a contribué à créer une identité forte de la Croix-Rouge suisse, qui va persister encore pendant une ou deux générations en tout cas. En plus, la façon dont il a mené les secours à l'étranger a permis à la Croix-Rouge suisse de s'ouvrir aux événements internationaux, guerre, catastrophes naturelles, réfugiés, et cela a aussi aidé la population suisse à s'ouvrir à ces problèmes internationaux. En d'autres mots, Sali a pris en main une société encore très liée au XIXe siècle, et grâce aux bases solides qu'il lui a données, il l'a mise en mesure d'affronter les défis du XXe siècle. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, M. Valsan Giacomo. On passe maintenant à la deuxième conférence de ce matin, la dernière de nos travaux. Juste quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là hier, de présentation de notre collègue qui enseigne l'histoire de la santé publique à l'Université du Maryland dans la School of Public Health, et qui vient de publier cette année un beau livre sur l'histoire de la Croix-Rouge américaine. Comme vous pouvez le comprendre, elle a beaucoup à nous dire, et c'est pour ça qu'elle a gentiment accepté de diviser sa contribution en deux parties. Hier, nous a parlé de la biographie de la fondatrice de la Croix-Rouge américaine, Clara Barton, et aujourd'hui va plutôt nous parler de transformation dont le but est de modalité d'action de la Croix-Rouge américaine. Et nous la remercions beaucoup de sa participation à nos travaux.
Merci, Madame, Messieurs, pour aller une deuxième fois pour écouter ce discours au sujet de Clara Barton. Il faut juste un moment pour l'ordinateur, parce que je suis... un peu dépendant des ordinateurs. Hier, j'ai parlé de la vie de Clara Barton. Jusqu'à la guerre franco-prusse. Aujourd'hui, je vais continuer en discuter les activités de secours de la Croix-Rouge américaine, et je vais aborder le sujet de l'influence de Clara Barton au mouvement de la Croix-Rouge, si elle a vraiment changé la mission du mouvement en temps de paix. D'abord, on va revoir brièvement sa biographie. Elle n'était pas super-héroïne, comme on a dit qu'on croit les enfants, mais elle était femme de classe moyenne, venue d'un village en Nouvelle-Angleterre, plus jeune de famille, d'anciens soldats, comme religion universaliste, œcuménique. Elle était célibataire, travaillant comme maîtresse de l'école à New Jersey et ensuite comme fonctionnaire à Washington. Bon, en 1861, la guerre civile l'a entourée, et elle et ses amis ont offert secours aux soldats du gouvernement américain. Les soldats, pas les rebelles, pas les sécessionnistes, mais les soldats du gouvernement, ce qui était mal provisionné. Et elle a risqué sa vie en allant au champ de bataille, actif pour soigner les blessés, mais surtout, elle s'est distinguée d'autres bénévoles de la guerre civile en être très douée comme orateur. Après la guerre, elle a fait des conférences publiques partout en Amérique au sujet de ses aventures de guerre. Elle a souffert une dépression nerveuse et elle est venue à Genève pour récupérer la santé. On est fini avec son introduction au mouvement de la Croix-Rouge. Donc, docteur Louis Appia est venu chez la maison où Clara Barton était, et l'a introduit au mouvement. On est fini avec la guerre franco-prusse. où après avoir été refusé accès au champ de bataille, Clara Barton s'est trouvée à Strasbourg, où soutenue par la grande duchesse de Bade, qui était aussi la princesse Louise de Prusse. Clara Barton a aidé à la population civile pendant le siège de la ville. Et le siège était fait pour le duc de Baden, oui, le mari de la duchesse qui a supprimé l'aide. Je ne l'ai dit pas hier, mais Barton a organisé un magasin de vêtements où les femmes de Strasbourg pouvaient trouver emploi comme couturières et les autres que possédaient de l'argent, mais qui ont perdu leurs effets personnels dans un feu qui faisait rage pendant le siège, pouvaient soutenir la cause en achetant les vêtements. Et bon, les profits avaient soutenu les autres pendant le siège. C'est le premier exemple d'un modèle de secours que Barton a inventé. Et c'est un modèle dans lequel les victimes d'une catastrophe s'engagent en s'aider eux-mêmes. Et c'était principalement les femmes qui l'ont fait. Bon. Après la guerre, Barton a resté avec le duc et la duchesse de Baden pour des mois. Et le père de la duchesse, Kaiser Wilhelm I, l'a donné la croix de fer pour ses travaux. Et comme Appiah et comme Furley, Clara Barton était enthousiaste de l'aristocratie. Et pour elle, je pense que ce séjour était comme un rêve d'enfant. Oui. Mais bon, comme tous les rêves, il fallait que ça finisse. Et elle est revenue aux États-Unis en 1873. Sa sœur est morte et elle ne se sentait bien elle-même. Donc, depuis 1877, elle faisait, jusqu'à 1877, elle faisait peu. Et se déménageait à Dansville, New York, pour prendre encore une cure de repos. Mais cette fois, elle est récupérée. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas de guerre franco-prusse ou une autre guerre de distraction. Donc, est en 1877, en lisant qu'il y avait une guerre qui menace entre l'Allemagne et la Russie, Barton s'est décidé à fonder une société Croix-Rouge américaine pour collectionner les dons des Américains et les emmener à la Croix-Rouge russe et à la Croix-Rouge allemande. Même que la menace de guerre ait vitement disparu, Barton avait déjà envoyé une lettre au docteur Appiah, ce qui indiquait qu'elle voulait organiser cette Croix-Rouge américaine. Et docteur Appiah et M. Gustave Monnier lui a répondu. Et en leur lettre, assez enthousiaste, ils ont écrit qu'il soit mieux qu'une femme mène une société de Croix-Rouge en Amérique à cause de l'influence morale féminine et la sincérité d'une femme, ce qui pouvait être plus efficace de persuader les officiels de l'État à adhérer à la Convention de Genève. Mais après cela, plusieurs imprévus ont ralenti le progrès de la campagne de Barton. En 1877, Washington n'était pas encore un centre de puissance mondiale. Pour contre, il faisait partie de la périphérie mondiale. En cette année, le Washington Monument, aujourd'hui un symbole de dominance américaine, n'était pas fini et se ressemblait à une souche d'arbre. On peut dire souche d'arbre, oui. En même temps, le département de l'État existait à peine. Et le département ne s'intéressait pas du tout aux affaires européennes. Il considérait les corps d'Europe comme décadents et selon l'interprétation à cette époque de la doctrine Monroe, les États-Unis ne faisaient pas d'alliance ou engagement diplomatique en Europe afin que les nations d'Europe n'interféraient dans les affaires des pays dans la sphère d'influence des États-Unis, l'hémisphère ouest. Donc, sous la présidente Rutherford Hayes, Washington a refusé de signer la Convention de Genève. Une autre difficulté à ce moment-là, les États-Unis était en train de démilitariser. Oui. En 1870, la population était 38 millions, la population des États-Unis. Et il y avait plus de 37 000 soldats. Mais après la période d'après-guerre, où l'armée fédérale occupait la région sud, l'armée commence à diminuer. Pourquoi? Les États-Unis ne se sentaient qu'en puissance militaire. Je vais lire encore. Les États-Unis ne se sentaient qu'en puissance militaire à cette époque. Les Américains s'étaient fatigués de la guerre. Le seul combat à cette époque aux États-Unis était contre les Amérindiens, lesquels étaient déjà affaibli par la destruction écologique de leur territoire et par les maladies comme variole et par l'alcoolisme. Le conflit contre les Amérindiens était donc asymétrique et quelquefois de vrais massacres. Ce n'était pas la guerre entre nations civilisées comme avaient imaginé les fondateurs de la CECR. Les Américains des années 1870 donc, n'avaient pas besoin d'un grand corps médical de volontiers pour secours de blessés de la guerre. En 1866, M. Henry Bellows, un organisateur de la commission sanitaire dans la guerre civile, a essayé d'organiser un comité de la Croix-Rouge américaine. Mais les procès-verbaux des séances de CECR de 14 août 1869 se rendent compte de son désespoir en ne pouvoir le faire. Je lis. Lettre de M. Bellows, président du comité central américain, disant que l'Amérique, quelque peu lassée de ses efforts faits pendant la guerre, témoigna peu d'intérêt pour la continuation de l'œuvre en temps de paix. Mais il ne doute pas de son nouveau zèle si une guerre devait éclater. Mais 7 ans plus tard, après une période d'inactivité et une période de paix aux États-Unis, la séance de 23 août 1876 dit « Lettre d'Amérique annonçant la dissolution de la Société américaine de secours aux blessés. » Tout court. Donc, on peut déduire pourquoi Dr. Appiah et Gustave Monnier ont-ils répondu à la lettre de Barton de la prochaine année avec tel enthousiasme. Mais Barton devait encore surmonter l'obstacle de la fatigue de guerre aux États-Unis. Donc, elle a proposé une mission pour la Croix-Rouge américaine en temps de paix. Le secours pour les victimes de catastrophes aux États-Unis et à l'étranger. Mais cet idée avait une certaine résonance aux États-Unis à cette époque. Les États-Unis étaient en train de devenir un pays unifié grâce au réseau de chemin de fer croissant et la télégraphe qui est répandue partout. Le pays se tournait vers l'intérieur. Il s'est préoccupé avec la construction des grandes villes et de grandes fortunes, grandes fortunes industrielles surtout, et dans la création d'un immense système d'agriculture industrialisée et lié aux villes par le chemin de fer. Et l'échange a produit les conséquences graves. Les conséquences positives économiques, mais les conséquences graves pour des gens. Barton en a décrit plusieurs, en proposé les raisons pour cette mission de secours de catastrophe. Comme nous avons déjà appris cette semaine, la société américaine n'était pas la seule ni la première à s'engager en secours de victimes de catastrophes. Mais même que ce n'était pas un cas d'exceptionnalisme américain, Barton, en proposant son mission pour la Croix-Rouge américaine, a essayé à saisir un moment dans l'histoire particulière du pays, le moment de sa réunification après la guerre, où le désir pour une solidarité nationale était très fort, et le désir d'aider les Américains en quelque part était aussi très fort, de l'aider l'un à l'autre. Et aussi, elle a essayé à saisir un moment dans l'histoire pas uniquement américaine, le moment où la deuxième phase de la révolution industrielle qui stimule la passion pour l'organisation et systématisation. Oui. Dans un pamphlet qui s'appelle en anglais « The Red Cross of the Geneva Convention, What It Is », elle a écrit, et je vais lire en anglais. Although we in the United States may fondly hope to be seldom visited by the calamity of war, yet the misfortunes of other nations with which we are on terms of amity appeal to our sympathies. Our southern coasts are periodically visited by inundations, the plains of the West are devastated by insects and drought, and our cities and country are swept by consuming fires. In all such cases, to gather and dispense the profuse liberality of our people without waste of time or material requires the wisdom that comes of experience and permanent organization. Néanmoins, d'abord, le tract n'était pas très populaire. Barton ne faisait aucun progrès avant 1880. Mais quand James Garfield, héros de la guerre civile, qui elle a connu et qui connut lui-même l'ange du champ de bataille, est élu président. Donc, quand l'administration Garfield s'est installée à Washington, Barton part de Downsville, New York, et s'installe elle-même à Washington. Elle a fait une visite au nouveau secrétaire de l'État, James Blaine, et James Blaine, afin de se différencier de l'administration précédente, lui a dit que oui, peut-être que les États-Unis signeraient la Convention de Genève. Mais il faut parler au secrétaire de la guerre, Robert Lincoln. Lincoln, le seul fils survivant du président assassiné, était en présence formidable à Washington. Mais Barton était de force égale. Elle a simplement marché à son bureau et a demandé une réunion avec lui. Quand l'assistant de Lincoln lui a dit que bon, le secrétaire Lincoln n'avait pas le temps pour la réunion avec vous ce jour-là. Elle est revenue le prochain jour et la prochaine et Et lui, elle a dit qu'elle attendrait le secrétaire Lincoln. Après quelques jours, l'assistant lui a demandé s'il était nécessaire de trouver un petit bureau pour elle et le placer dans le vestibule. Mes enfants, sa ténacité produit les résultats. Lincoln a ralenti et on s'est réunis. Immédiatement, quand on s'est réunis, d'après Barton, c'est d'après ce journal, Barton a commencé à pleurer. On lui dit qu'elle a connu son père très bien, mais en réalité, elle l'a connu très peu, presque pas du tout. Et peu après, parmi les larmes, elle lui a demandé si ça serait peut-être possible pour les États-Unis de signer la Convention de Genève. Bien que je ne supporte pas du tout ces tactiques régressives féminines à cette époque, 21e siècle, à cette époque, ces tactiques étaient efficaces. L'administration commence à convaincre les sénateurs à ratifier la convention. Les votes affirmatifs de 2/3 du Sénat est nécessaire encore pour ratifier un traité. Donc, en souhaitant la ratification, Barton et les autres gens prominents de Washington D.C. se réunissent en mai 1881 pour fonder une société de la Croix-Rouge américaine. Parce qu'il aurait été trop difficile d'obtenir une charte fédérale pour cette organisation, parce qu'il fallait travailler avec le Congrès, ils ont obtenu une charte de gouvernement local de Washington, D.C. pour cette organisation. Quelques semaines après, il y avait des feux de forêt en Michigan et la société néophyte des États-Unis a collectionné des dons et les a emmenés à Michigan et pour les distribuer. Ça signifie que les gens qui appartiennent à cette société avaient suivi les recommandations de Barton, que la mission de la société en temps de paix serait le secours des victimes de catastrophes naturelles. Bien, Barton est préoccupé avec la ratification de la convention et pas le feu de forêt. Le président Garfield était tiré en juillet par un fusil et il est mort de sa blessure en septembre. Barton a pensé que tout était perdu, mais l'administration de son successeur, Chester Arthur, dit à Barton qu'il allait honorer les promesses de l'administration précédente. Et bon, le traité est ratifié et signé le 16 mars 1882, presque en même temps qu'on a fondé le Croix-Rouge suisse, oui, ou refondé. Oui. Plus de 16 ans, cette société faisait que le secours de victimes de catastrophes. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer les principes du mouvement de la Croix-Rouge dans ce contexte de catastrophe naturelle? L'humanité, c'est un peu clair. Aider les victimes d'une catastrophe en distribuer les dons du peuple évance une reconnaissance de l'humanité commune. La sympathie humaine pour la souffrance des autres. Et ce qui était au bas de ce livre, la significance de ce livre de Dunant. Mais la neutralité, comment peut-on transplanter d'un champ de bataille à un champ de catastrophe la neutralité? La Convention n'adressait pas la neutralité hors de la guerre. Mais pour Barton, c'était simple. Elle a expliqué plus tard que pour être neutre, il fallait offrir la même assistance à tout le monde, quoique sexe, quoique race, quoique religion. En anglais, à une de ces réunions de la Croix-Rouge américaine, elle a dit, en anglais, « The American Red Cross must be free from all shadows of sex or race and must give to the Muslim, the Israelite, and the heathen the same consideration it accords the Christian. » Cette interprétation nouvelle vient de ses croyances d'enfance œcuméniques, mais aussi réfléchissent le temps aux États-Unis. En Europe, les frontières contestées étaient entre les nations. Oui. Mais aux États-Unis de cette époque, les frontières contestées étaient entre les différents groupes sociaux. Les femmes luttaient pour le droit de vote, et contre les hommes un peu, et les gens noirs luttaient contre la violence raciale et contre la ségrégation sociale et légale. Les Amérindiens luttaient contre les efforts des Blancs de lui confiner dans les réserves. Les groupes différents d'immigrés européens se luttaient l'un à l'autre pour l'espace social, l'espace économique et l'espace physical dans les quartiers des villes industrielles. Et cette nouvelle interprétation de neutralité est presque le même concept que le concept d'impartialité qui faisait un des quatre principes adoptés par le mouvement de la Croix-Rouge en 1921. Et le principe d'impartialité était plus tard incorporé dans les sept principes fondamentaux que Jean Pictet a développés dans les années 50. Et ce principe dit simplement que, dans la formation contemporaine du XXe siècle, que le mouvement, je cite, « le mouvement ne fait pas de discrimination et aide tout » et que, je cite, « la seule priorité qui puisse être fixée au regard de ceux qui ont besoin de l'aide, d'autres doit être fondée sur leurs besoins ». Et ce n'était pas un accident que Barton a adopté l'idée d'impartialité, neutralité, impartialité, bien avant l'adoption de ce principe par le mouvement international. Pour Barton et sa Croix-Rouge américaine, il était nécessaire de l'adopter parce que ils ont travaillé avec une population civile. Donc, leur contribution unique de Barton au mouvement de la Croix-Rouge, à mon avis, est non simplement la mission d'aider les victimes de la catastrophe en temps de paix, mais plutôt d'aider les populations civiles et d'essayer de la faire dans une manière neutre, une manière impartiale, c'est-à-dire sans discrimination. Pour nous, aujourd'hui, c'est encore un idéal pas tout réalisé, pas complètement réalisé, étant des leçons que le fondateur de la Croix-Rouge américaine peut nous offrir. Merci.
Merci beaucoup, Marianne. Et nous avons le temps pour de questions et de commentaires sur ces deux belles conférences. Roger.
Je remercie les deux conférenciers. Ma première question sera pour M. San Giacomo, parce que vous nous avez parlé des efforts du Dr Sani pour ouvrir la Croix-Rouge, notamment dans les métiers de garde malade, etc. À Genève, on a observe la même évolution à la fin des années 1880. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce que dans les archives vous avez vu des relations entre Sali et les Genevois, notamment Alice Fabre, qui était la grande dame de la Croix-Rouge Genevoise à ce moment-là?
Non, sincèrement, je n'ai pas vu de correspondance, de texte à ce propos. Les années 90, donc Sali est à la Croix-Rouge, au secrétariat central en 1898, et il se concentre, je pense, surtout sur l'activité de la Croix-Rouge suisse et des difficultés qu'elle a dans la formation de gardes malades. Et donc il est en train de préparer la réalisation de son dessin, il est en train de préparer une stratégie. On le sent qu'il il écrit des articles, il a des contacts avec les responsables de l'armée, il n'est pas encore actif vis-à-vis des sections. Il y aura un contact avec les sections plus tard quand il s'agira de acheter l'hôpital du Lindenhof. L'hôpital du Lindenhof qui appartenait à un docteur Lanz, et docteur Lanz le cède à la Croix-Rouge. Enfin, Sali créera une fondation d'où dépendra l'école et l'hôpital, et les sociétés Croix-Rouge romandes s'opposeront à cet achat parce que peut-être elles ont peur qu'il y aura moins de fonds pour elles. Et là, il y a une assemblée extraordinaire là-dessus. Sali l'emporte parce qu'il a réussi à convaincre les présents de la nécessité. Surtout que je pense que la majorité, comme c'est souvent le cas, les Suisses alémaniques, s'il y a eu un vote, je ne vais pas approfondir la question, mais s'il y a eu un vote, peut-être que justement il a emporté comme ça. Mais c'était à ce moment-là surtout que je vois des contacts. Et puis, bien sûr, par la suite, oui. Par exemple, pour le secours, j'ai vu des contacts avec des sections pour les secours en Afrique du Sud, pour les secours lors de la guerre des Boers, pour les secours en Grèce. Là, il y avait des sections, Neuchâtel par exemple, qui spontanément ont envoyé des personnes, le docteur de Montmolin, par exemple, pour Neuchâtel, pour l'Afrique du Sud. Pour la Grèce, Carl de Malval, non. Donc il y a quand même des contacts, hein, mais le nom de Madame Favre, je ne l'ai pas vu.
Deuxième question, non?
Oui.
D'abord, je remercie les conférenciers. Hein.
Merci.
Et j'ai une question pour M. Bazin Chacoumont. Vous avez parlé de la collaboration de la France suisse avec le club alpin.
Oui.
Alors, ayant travaillé sur le club alpin suisse, je serais désireux d'avoir un peu plus d'informations à ce propos. Donc, vous avez dit que vous avez organisé des cours pour de formation, en fait, des secours en montagne. Est-ce que ces cours étaient destinés aux personnes qui gravitaient autour de la Croix-Rouge ou au contraire aux guides?
Au guide.
Parce qu'il existait, le club alpin suisse avait déjà organisé des cours pour leur guide, qui étaient obligatoires. Et c'est vrai que c'était des cours assez théoriques. Alors, est-ce que là, nous sommes face à des cours plus pratiques ou bien est-ce que vous savez si ça reste...
Est-ce que vous avez une année pour ça?
Des cours qui étaient organisés?
Oui.
Si je ne me trompe pas, c'était fin des années 80 déjà.
1880. Non, ça c'est. Alors, il faut croire que, comme j'ai dit, d'ailleurs, c'est Bossart lui-même hein, qui cite et qui envoie même des statistiques. Il y a eu une augmentation assez forte, une recrudescence des accidents de montagne. Et c'est en 1903 qu'il soumet, comme des statuts de collaboration pour la formation. Il envoie plusieurs pages où sont détaillées les tâches de la Croix-Rouge, plutôt du secrétariat central de la Croix-Rouge, d'où dépendaient aussi les Samaritains. Donc Sally, à ce moment-là, répond aussi en tant que responsable de la société des Samaritains et qui était la plus à même pour donner de tels cours de secours. Donc comment on soigne quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou s'est cassé la tête. Et Sally répond tout de suite. Donc, d'après le dossier, ce n'est pas lui qui a cherché le contact. On l'a contacté et il répond tout de suite favorablement. Ça donne donc l'impression de quelqu'un qui est très ouvert. Il comprend tout de suite la nécessité de la chose. Et après, c'est Bossa qui fait des propositions. D'abord, il dit, voilà, non seulement des cours, mais aussi préparation de matériel. C'est pour ça qu'il s'adresse aussi à Sally, parce qu'il faut préparer des brancards, il faut préparer du matériel sanitaire. Lui, il n'a aucune expérience. Sally, par contre, il en a, ou en tout cas, il connaît des gens qui en ont et qui peuvent fournir. Bossa propose d'abord deux endroits, test, un à Zermatt et l'autre dans le canton de Glaris. Sally accepte, donc il met en contact les responsables du lieu. Et puis, après cette adhésion de Sally au projet, on voit à partir de 1904, 1905, 1907, les années suivantes, il y a toute une série de demandes de cours qui viennent des Grisons notamment, et ça, il a aussi répond toujours favorablement. Après, bon, moi je me suis arrêté aux années 1907-8, je ne vais pas approfondir plus.
Merci.
Mais excusez-moi, mais c'est étonnant, j'ai dit, on n'en parle pas souvent. Cette année, le CAS a fêté le 150e anniversaire. Eh bien, dans la brochure de jubilé, il n'y a rien sur ces de collaboration.
Oui, d'abord vous, après Roger.
Oui, j'ai une question concernant l'international. En 1895, je pense, il y avait le premier massacre aux Arméniens.
Oui. Pas à cette époque, malheureusement, mais plus tard, dans les années juste après la Première Guerre mondiale, il y avait des catastrophes agriculturelles dans les grandes plaines. Et donc, les chapitres ont aidé la population amérindienne. Mais à cette époque, c'était le Bureau d'affaires indiennes qui s'était occupé avec l'aide des Indiens. Donc, si Clara Barton avait intervenu et s'il y avait une mission... Je pense que ça, on ne pouvait pas faire une mission comme ça politiquement, oui. Logistiquement, oui, mais politiquement, non. Donc, c'était plus facile aller aider les Arméniens en Turc que aider les Amérindiens aux États-Unis, oui, politiquement, parce que le gouvernement américain n'avait pas de position très forte par rapport à l'Empire ottoman, mais il avait une position très forte avec les, contre les Amérindiens et pour les faire aller aux réserves. Et l'idéologie à cette époque, c'était de faire les Amérindiens aller aux réserves pour les civiliser, oui. Donc, oui, c'est un chapitre un peu difficile ou triste dans l'histoire des États-Unis, oui.
Mais je peux imaginer la façon dont je trouve que lançant une campagne pour aider les Amérindiens,
oui.
Les États-Unis.
Oui, oui.
Oui. Roger,
je voulais poser une question à Marianne au sujet de la fin de la carrière de Clara Barton au sein de la Croix-Rouge américaine, parce que je crois que le tableau n'est pas si réjouissant que ça.
Oui, donc oui, j'ai pas abordé ce sujet parce que le fin de sa carrière, donc après l'aide des Arméniens, elle est allée à Cuba pour dans la guerre espagnole-américaine et aussi pour aider les populations civiles. Et après qu'elle est revenue aux États-Unis. La Croix-Rouge américaine est devenue plus populaire parce que à cause de la guerre et l'aide dans la guerre, même si c'était pas très efficace et il y avait beaucoup de choses gâchées, toutes gâchées, mais donc la Croix-Rouge a reçu beaucoup d'attention, mais aussi de critiques. Donc, et Clara Barton avait à cette époque presque 80 ans. Donc, elle a dit au board, le conseil, oui, je vais à la retraite maintenant. Mais le conseil a dit non, il ne faut pas faire la retraite parce que leur carrière se dépendait de sa carrière, oui. Donc, mais il y avait une nouvelle faction qui s'est composée des progressifs comme Teddy Roosevelt, mais ils sont alliés avec Teddy Roosevelt. Et les progressifs, le mouvement progressif a essayé de refaire le monde et réorganiser et moderniser. Donc, ils ont essayé de moderniser la Croix-Rouge américaine. Et pour le faire, c'était nécessaire, en leur avis, à ne pas avoir Clara Barton à la tête menée de l'organisation parce que, bon, elle n'était pas un bon organisateur et elle ne faisait pas les chiffres très ordonnés dans les archives. C'est un peu comme mes dossiers personnels, c'est un peu pas très organisé. Donc, elle s'était forcée, c'était une retraite forcée. Et il y avait avant un scandale très public, les deux factions qui se battent l'une à l'autre pendant 3 années, je pense. Donc en 1904, elle s'est forcée, la résignation, la retraite s'est forcée. Donc, c'est une réponse très longue, mais on peut faire un autre discours à ce sujet. Donc.
D'autres questions? Oui, madame.
Oui, j'étais très intéressée par votre conférence. Vous avez mentionné que c'était l'époque où les femmes se battaient pour la défense de leurs droits, pour
oui.
Le droit de vote. Je voulais savoir si Clara Barton, d'une façon ou d'une autre, s'est engagée dans ce combat.
Oh, c'est une bonne question. Oui, Clara Barton, elle fait partie du mouvement de la droite de voter, oui, de souffrance, oui.
Suffrage.
Mais, pardon?
Souffrage.
Souffrage, oui, souffrance, c'est Oui, elle a... Quand on fait des erreurs, c'est...
Pour s'amuser.
Oui, oui. Donc oui, suffrage. Elle a essayé de secours de souffrance et aussi de suffrage, mais elle n'a fait pas grand partie de ce mouvement parce qu'elle s'était occupée tout le temps avec la Croix-Rouge, mais elle a assisté aux conférences de la suffrage et elle avait une amitié avec Susan B. Anthony, une des femmes plus prominentes dans le mouvement. Et j'ai trouvé un petit article de journal qui a dit qu'en 1881, l'élection de Garfield, Clara Barton a dit qu'elle va essayer de voter, d'aller voter, en proteste. Oui. Donc, oui, elle était féministe, oui. Et c'était un peu controversiel à cette époque. Ce n'était pas neutre, en position neutre.
Bien, alors, un grand merci encore à nos conférenciers et on va procéder à la dernière partie de notre séance, c'est-à-dire les conclusions qui seront données par François Bugnon.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, il n'est jamais facile de conclure en quelques minutes trois jours de débat, surtout trois jours de débat aussi intenses, aussi fructueux que ceux que nous venons de vivre et qui nous ont aussi permis de découvrir plein de choses nouvelles. Je ne tenterai pas de résumer les interventions individuelles, d'abord ce serait inutile, et puis surtout... je n'oublie pas la formule, quand je nomme un ministre, je fais 9 jaloux et 1 ingrat. Formule d'un personnage que je n'aime pas particulièrement, qui est Louis XIV. Donc si je commence à nommer un conférencier, il risque de se plaindre, ou une conférencière, de se plaindre que j'ai mal rapporté ses propos, et puis tous les autres auront le sentiment qu'eux sont discriminés, et on nous a rappelé l'importance du principe de non-discrimination au sein de la Croix-Rouge. Donc je ne le ferai pas, mais en même temps je fais appel à votre indulgence. Ce colloque organisé pour commémorer les 150 ans de la conférence d'octobre qui donna naissance à la Croix-Rouge, et nous sommes particulièrement reconnaissants qu'il puisse se tenir ici dans les murs où... cette conférence a eu lieu le jour où elle a débuté. Et nous sommes le jour où elle se termine et on est reconnaissant pour le rappel des circonstances. C'est un colloque aussi qui a réuni des conférenciers d'horizons très divers, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Australie et États-Unis. J'espère que je n'oublie aucune provenance. Sur le plan de la substance, quelques remarques. La première, le rôle fondateur très évident de la guerre de 1870-1871. Donc même si la Croix-Rouge est fondée quelques années auparavant, c'est véritablement ce conflit qui consolide l'institution. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre mettant aux prises deux des grandes puissances européennes, des membres de ce système pentagonal qu'on appelait le concert européen, en raison de sa durée, en raison du nombre des victimes, et puis en raison aussi des conséquences politiques très importantes de ce conflit qui a bouleversé l'ordre européen qui avait été créé par le Congrès de Vienne. C'est bien sûr un moment de véritable consolidation pour les sociétés nationales des pays concernés, la Croix-Rouge française et les différentes sociétés allemandes, mais cela vaut aussi pour les neutres. On a vu la fondation de la Croix-Rouge britannique à cette occasion, la Croix-Rouge suisse qui véritablement passe d'un statut en quelque sorte de société qui existe sur le papier en société véritablement opérationnelle. J'ajouterais pour le cas de la Suisse que l'événement des Bourbakis, en un sens, est un événement, c'est pas l'événement, mais c'est aussi un événement constitutif fort de l'identité nationale, puisque tous les Suisses ont été impliqués dans cet événement. Un impact important donc sur les États, sur les sociétés nationales et bien sûr sur les individus. On a rappelé le destin d'un Frédéric Ferrière, d'un Sir John Foley, d'une Clara Barton qui, chacun à leur façon, ont été mêlés à l'événement. Et puis, on voit que ce conflit a eu une résonance très forte sur le plan du développement du droit international humanitaire à travers la conférence de Bruxelles qui suit ce conflit pour en quelque sorte dégager les enseignements sur le plan de la codification des lois et coutumes de la guerre. Et puis même si la déclaration de Bruxelles n'a pas été ratifiée, on retrouve ensuite ces formules dans les conventions de la Haye de 1899 et de 1907. Donc pour beaucoup de sociétés nationales, et je dirais pour le mouvement, son fonctionnement en tant que mouvement international, malgré tous les déboires, c'est véritablement le baptême du feu, donc ça correspond bien au titre de notre colloque, et les anglo-saxons diraient « reality check » pour beaucoup de gens, donc le passage à la maturité. Puis deuxièmement, si on passe à l'autre extrémité de cette période envisagée, les conflits balkaniques de 1912-1913 ont aussi suscité un très vif intérêt, ont une très grande résonance qui provoque ces nombreuses missions. On a évoqué celles envoyées par le comité international, celles de la Croix-Rouge italienne, celles de la Croix-Rouge suisse. On a mentionné la Croix-Rouge de Belgique également dans nos débats, mais on sait qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Et pour beaucoup de contemporains de cet événement, ce conflit balkanique a revêtu une importance très particulière du fait que les contemporains y ont vu une occasion, et je pense pour eux une dernière occasion, de dégager d'un conflit localisé des enseignements en vue d'une guerre beaucoup plus importante que beaucoup de gens redoutent et considèrent comme imminente. Et puis entre, je dirais, ces deux pôles, 1870-71 d'un côté, 1912-1913 de l'autre, eh bien, on trouve un grand nombre de conflits de nature, d'importance différente, mais qui tous, évidemment, ont fait des victimes. Et notre colloque a permis d'éclairer quelques-uns d'entre eux. On a beaucoup parlé de la Seconde Guerre carliste en Espagne, de l'insurrection en Herzégovine en 1875-76, du conflit russo-japonais de 1904-1905 et des nombreuses guerres coloniales qui ont endeuillé cette période, l'Abyssinie, Cuba, les Philippines en particulier. Toutes ces guerres ont confronté la Croix-Rouge à des problèmes nouveaux, en particulier la question de l'intervention de la Croix-Rouge en cas de guerre civile, de l'intervention lors de guerres coloniales qui, dans le droit international de l'époque, et on avait très tendance à dire le droit européen, n'était pas couvert par un traité tel que la Convention de Genève. La question de l'aide aux prisonniers de guerre, on l'a vu aussi bien dans le cas de l'Abyssinie que dans le cas des Philippines et de Cuba. Donc, chaque fois, des défis nouveaux auxquels il a fallu répondre. Et puis, si maintenant, on essaye d'avoir un regard plus analytique et de se concentrer l'attention sur les événements qui ont conduit à des développements significatifs, soit du droit international humanitaire, soit de l'action humanitaire, je dirais la première remarque, c'est de constater que la Croix-Rouge est une institution extrêmement déconcertante. Pourquoi ? Bien parce que d'un côté, en faisant une parenthèse pour la Croix-Rouge américaine, ou sous réserve de la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge projette l'image d'une institution très conservatrice, en un sens figée dans le respect du mandat tel qu'il a été conçu au point de départ de l'œuvre, pour tout ce qui concerne le débat théorique, la réflexion sur quel est notre rôle. Et puis dans le même temps, cette même institution est capable d'énormément d'innovations quand elle est confrontée à des situations concrètes et en présence de la souffrance des victimes. Le comité international en donne l'exemple en considérant que nous n'avons rien à faire dans l'assistance à des prisonniers de guerre valides, respectivement des internés valides. On est là pour s'occuper des blessés. Puis dans le même temps, ce même comité international crée l'agence sous l'emblème de la Croix Verte pour s'occuper des prisonniers de guerre et une agence ad hoc pour s'occuper des internés en Suisse, qui bien sûr partageaient les locaux du CICR. Donc on voit bien l'étroitesse de la relation. Et puis, de la même façon, on voit les initiatives qui ont été prises, par exemple, à l'occasion de guerres civiles, par la Croix-Rouge espagnole, qui sont prises en ce qui concerne l'intervention également en faveur des prisonniers de guerre, ou l'intervention par rapport aux situations du temps de paix, aux catastrophes survenant en temps de paix, soit à travers les différentes initiatives de la Croix-Rouge américaine qui ont été rappelées, soit en ce qui concerne la guerre contre le paludisme. Et je pense, et là je prie de m'excuser auprès du docteur, auprès de Peter, que dans le recours à une terminologie militaire, il y avait peut-être aussi l'idée de montrer que finalement on ne s'écartait pas tellement du mandat originel, puisque c'était une autre forme de guerre. Donc ça peut aussi expliquer le recours à cette terminologie guerrière. Et puis pourquoi est-ce que l'institution est déconcertante? C'est qu'on voit qu'il faut souvent énormément de temps pour que, sur le plan théorique, on récupère, en un sens, où on intègre, récupérer n'est pas le bon mot, qu'on intègre ces initiatives qui ont été prises dans des situations concrètes. On a l'intervention de la Croix-Rouge espagnole en cas de guerre civile lors de la Deuxième Guerre carliste, dans les années 1872-76. Puis finalement, il faudra attendre la résolution numéro 14 de la 10e Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1921 pour que la Croix-Rouge officialise son rôle par rapport aux situations de guerre civile. Et puis en ce qui concerne les prisonniers de guerre, l'espace de temps n'est pas tout à fait aussi long, mais presque, puisque c'est les initiatives, on les trouve déjà en 1870, concrètes, et puis c'est en 1912, à travers la résolution de Washington, la résolution 6 de la conférence de Washington, que l'on formalise ce rôle. Probablement, cette vision trop étroite du mandat, ce légalisme explique aussi le fait que, passablement de société nationale, ça nous a encore été rappelé ce matin dans le cas de la Croix-Rouge suisse, traverse des espaces de léthargie entre les périodes de conflit. Et puis si on regarde les dates de naissance des sociétés nationales, l'exemple de la Croix-Rouge britannique est typique avec la guerre franco-allemande, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est lié à des conflits, soit qui ont affecté les pays en question, soit des conflits des pays dans la région. Nouvelle remarque, cinquième sur le plan de la substance, c'est l'importance de l'initiative individuelle. Alors on en avait parlé lors du séminaire de février s'agissant des cinq fondateurs, mais de nouveau, le colloque que nous avons eu aujourd'hui a permis de mettre en lumière les initiatives d'un jeune Ferrière, les initiatives d'un Sir John Furley, qui carrément, on pourrait dire presque en une journée, par sa propre action, arrive à créer une institution qui prendra un développement remarquable, la Croix-Rouge britannique. On a parlé du docteur Van Holzbeek, qui crée une espèce de société dissidente, mais qui finalement fera preuve de tellement plus de dynamisme que la société officielle qu'elle finira par l'absorber. On a parlé des docteurs Landa et de Ripalda en Espagne, Bartolo Nigrisoli et Angelo Celli de la Croix-Rouge italienne, dans deux contextes totalement différents, ce matin encore de Walter Sahli, et puis bien sûr l'influence très marquante de Clara Barton, qui amène les États-Unis à ratifier la Convention de Genève et oriente la Croix-Rouge américaine et à travers la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge tout entière dans des voies nouvelles. Et puis dans ces initiatives individuelles, bien entendu, notre colloque a permis de mettre en lumière le rôle très important joué par les médecins que l'on avait au point de départ de l'institution, ça a été rappelé ce matin, que l'on trouve dans des positions privilégiées au sein de sociétés nationales, soit comme président, soit sans ça, en quelque sorte, en étant la driving force, le moteur de l'évolution, et qui vont contribuer à faire évoluer ces sociétés nationales, mais qui vont aussi utiliser leur position au sein de la Croix-Rouge pour répandre des découvertes de l'art médical, de la science médicale. Et très souvent, ce sont ces médecins de Croix-Rouge volontaires qui, en vérité, sont bien en avance sur le plan scientifique et technique par rapport aux médecins militaires, beaucoup moins bien équipés. On l'a vu avec un exemple très frappant, avec cette installation de rayon X qu'on a transportée d'un bout à l'autre de l'espace russophone, à une époque où, évidemment, les médecins militaires russes, eux, n'avaient pas cet équipement. Et puis, quelques destins individuels très marquants, comme Walter et Elisabeth von Oettingen ou Katharina Sturzenegger, qui, sans avoir exercé le même type d'influence sur l'action humanitaire, sont extrêmement intéressants. Sixième remarque, c'est la tension que l'on a souvent observée entre le vécu individuel et le respect des principes fondamentaux, la difficulté de s'en tenir au principe du mouvement lorsqu'on est confronté à des situations concrètes. On a parlé du l'attitude germanophile d'un Appia ou d'un Ferrière lors de la guerre de 1870. On a parlé des préjugés d'un John Furley vis-à-vis des communards. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que finalement, chez toute une partie des acteurs, chez la plupart des acteurs, bien, on voit une capacité de faire la différence entre ce qui est le sentiment personnel, le senti, qui peut-être c'est auquel on donnera libre cours dans les lettres à la famille, etc., et puis une pratique qui, elle, se doit de se conformer aux principes de l'institution. Je pense que ça correspond aussi au vécu aujourd'hui de beaucoup d'hommes et femmes Croix-Rouge sur le terrain, que ce soit des délégués de société nationale, des délégués du CICR ou de la fédération qui vivent ça au quotidien. Ma septième remarque, c'est de remarquer qu'on a eu affaire à des tronches, pour parler français, ou de très très fortes personnalités. En un sens, c'est bien évident, les mous et les tièdes ne sont pas ceux dont l'histoire retient le nom. Donc, en vérité, ces gens qui ont joué un rôle important, qui ont exercé une influence, eh bien, c'était tous des très fortes personnalités, c'était probablement tous des caractères qui avaient une certaine difficulté à la cohabitation, et dans quelques cas, on l'a vu avec un Louis Appia, probablement aussi une certaine difficulté à se conformer à la discipline, ou du nom, la discipline institutionnelle, n'est-ce pas? Et puis alors, de ce point de vue-là, notre colloque nous amène à découvrir une certaine divergence entre l'image quand même relativement lisse qui se dégage des documents officiels, des rapports d'activité, des comptes rendus de conférences, et puis des tensions entre les individus que l'on découvre en se référant aux documents de première main. Et puis ma huitième et dernière remarque, c'est que nous avions un colloque orienté sur le passé, sur une période de l'histoire, un colloque historique, et puis en même temps, nous constatons que les préoccupations de l'époque, la reconnaissance du principe de la neutralité de l'acte médical, et par voie de conséquence de la personne, de l'acteur, médecin, infirmière, infirmier, brancardier, etc., la question de l'impartialité dans les soins, eh bien, c'est également des thèmes qui sont absolument brûlants aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était les quelques conclusions que je souhaitais dégager par rapport à ces trois jours de délibération. Et puis, si vous me permettez encore deux ou trois minutes, j'aimerais, en tant que co-organisateur ou associé modestement à l'organisation, remercier tout d'abord très chaleureusement la Fondation Louis Jeantet et la Société des Arts qui nous ont accueillis dans leurs locaux et encore une fois, combien nous apprécions d'être ici aujourd'hui plutôt que n'importe où ailleurs dans le monde. Deux cadres extrêmement favorables, extrêmement privilégiés et celui-ci qui nous ramène véritablement aux origines. Je souhaite remercier Michel Maury-Pastier et Michel Maury-Moignier, et oui, désolé pour le lapsus, mais il y a un nom qu'on lit souvent dans les journaux et qu'on entend à la radio. Michel Maury-Moignier et son équipe, Maria Franzoni, Ariane Fogel et Yvette Develay. J'espère que je n'oublie personne et je dirais toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour rendre possible ce colloque pour assurer l'intendance, les repas, les boissons, les cafés. Vous savez combien les cafés, j'y suis attaché. Je souhaite remercier aussi très chaleureusement Antoinette qui a assuré l'accueil, la gestion des tables de publication qui sont importants par rapport aux objectifs de diffusion qui sont les nôtres, Bernard et Monique Dunant, qui sont toujours là au bon moment, au bon endroit, quand il y a un service à rendre, mais dont la modestie extrême fait qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Quand on veut les remercier, je chargerai Roger de transmettre. Monsieur Aubert, qui a aussi assuré l'appui technique avec les photos, l'enregistrement, et ceci sera très précieux, notamment pour la préparation, l'enregistrement pour les actes. Les membres, mes collègues, disons, du comité scientifique qui ont assuré la préparation, la recherche des conférencières et conférenciers, identifié les bonnes personnes et on a vu combien cela est stratégique par rapport à un colloque comme celui-ci qui requiert un grand travail de préparation. Madame Spöri, je crois qu'elle n'est pas là non plus, qui a assuré le secrétariat de toute cette phase de préparation, ou plutôt la chancellerie, et l'élaboration des documents préparatoires que vous avez reçus. Tous les conférenciers qui ont fait des recherches pour mettre la main sur des documents de première main, pour découvrir des nouveaux éclairages, des nouvelles perspectives par rapport à des faits que l'on croyait connaître, mais que l'on découvre sous un jour nouveau et qui, bien sûr, ont préparé leurs exposés et que je remercie par avance au nom du comité de rédaction pour la remise dans les délais raisonnables des documents écrits que l'on attend pour pouvoir publier les actes. Je tiens à remercier l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé de l'Université de Genève, en particulier le professeur Bernardino Fantini et Dolores, pour toute la préparation de ce colloque. Genève Humanitaire et Roger, sans l'initiative de qui nous ne serions pas réunis aujourd'hui et dont on connaît l'engagement inlassable. Et puis enfin, tous les participants pour leur contribution au débat qui nous ont permis de discuter de ces questions dans la bonne humeur. Merci.
Alors, merci aussi à François pour cette synthèse remarquable, pour ces coups d'œil clairs et précis sur le passé immédiat de ces trois jours. On va maintenant juste jeter un petit coup d'œil sur l'avenir. Alors, l'avenir le plus proche, c'est un apéritif qui nous attend dans le petit salon, si vous le voulez. Et puis ensuite, ben, nous nous disloquerons joyeusement. Mais je crois que avec ce soleil, on sera peut-être content de prendre un petit peu de soleil et de nature après deux jours et demi en cave. Effectivement, François nous a parlé des textes, alors je m'adresse aux conférenciers, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, d'ici la fin 2013, veuillez nous envoyer vos textes en français ou en anglais. Vous pouvez élargir le champ, amener des annexes, de l'iconographie, etc. Nous verrons comment nous allons nous en sortir, mais s'il vous plaît, faites-le. J'aimerais aussi vous signaler que prochainement, si vous consultez le site donc genève-humanitaire.org, vous aurez des coordonnées de podcasts dont Stéphane Aubert s'occupe. C'est ces petites choses tout à fait miraculeuses qui se trouvent quelque part dans les étoiles, mais qui vous donneront les textes. Vous pourrez entendre les conférences, vous pourrez voir les photos, etc. C'est, je dois dire, assez fantastique. Et puis, j'aimerais encore juste vous signaler que le 29 octobre, pas 2014, mais 2013, c'est-à-dire mardi prochain, la Société d'Histoire et d'Archéologie, dont je salue Françoise Dubesson, vice-présidente ô combien dynamique, organise ici même une soirée un petit peu commémorative sur des événements, sur les mêmes événements, mais cette fois-ci pour le 29 octobre, c'est-à-dire la fin de la conférence d'octobre, donc 18h30 ici même, hein, c'est bien juste, aussi avec quelques exposés. François parlera, monsieur Hubert pour la société de Genevoise d'utilité publique, monsieur Brachard redira quelques mots, je pense que François dira quelques mots pour la société d'histoire. Voilà, alors ça c'est un repère. Un autre repère, c'est le samedi 9 novembre, si vous êtes à Genève, à l'auditoire de Calvin, donc juste à côté de la cathédrale, on aura une journée d'études sur le thème de la foi des fondateurs à l'engagement humanitaire. C'est une journée d'études organisée par la paroisse Saint-Pierre Fustry et par Genève Humanitaire. Donc là, on aura une autre perspective sur les motivations, on pourrait dire, spirituelles des fondateurs, d'Henri Dunant jusqu'à Gustave Adore. Donc là, il y a des éclairages nouveaux. Et puis, M. Somaruga parlera d'une sorte de témoignage de ses 11 ou 12 ans de présidence du CICR, où il a affiché une neutralité confessionnelle parfaite, alors que lui-même est un chrétien convaincu, engagé, etc. Un délégué m'a même dit que chaque fois qu'il allait quelque part, même dans des endroits impossibles sur le terrain, il demandait le dimanche matin qu'il puisse avoir une messe. Donc, mais à titre privé à ce moment-là, naturellement. Donc on aura là un témoignage véritablement captivant. Et puis l'après-midi, nous verrons des thèmes, on pourrait dire, plus philosophiques. Michel Veutet parlera des relations entre le droit international humanitaire et les convictions religieuses. C'est un ancien du CICR aussi. François Dermand, professeur d'éthique à la faculté de théologie, parlera des aspects éthiques de l'action humanitaire. Et puis ensuite, nous aurons un exposé de René Broman, dont le titre déjà vous mettra l'eau à la bouche, c'est « Un mécréant dans le creuset humanitaire », n'est-ce pas? Et René Broman est un brillant orateur, et puis un homme engagé dans l'action et surtout dans la réflexion sur l'humanitaire de très grand format. Et puis pour ceux qui le veulent, ensuite, nous quitterons l'auditoire vers 17h, et puis nous ferons 50 pas, et il y aura une célébration œcuménique à la cathédrale elle-même. Ça, c'est au choix de chacun. Donc vous voyez, on a déjà rien que pour cette... Je ne vous parle pas des 6-8 décembre prochains à Lausanne, où il y aura une exposition sur le général Dufour, avec au moins 3 vitrines sur Dufour humanitaire. Tenez-vous bien en... on pourrait dire en préambule ou en narthex, à une bourse aux armes. Tout simplement, une bourse aux armes. C'était un moment de réflexion pour savoir si on y participerait ou pas. Et puis finalement, on s'est dit qu'en général, c'était quand même quelqu'un qui avait pas mal fricoté avec les armes. Donc il n'y avait pas forcément une contradiction totale. Tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. Alors voilà les éléments immédiats. Donc je vous remercie de votre patience et de votre assiduité. J'espère que plusieurs de nos conférenciers pourront participer au volet prochain de 2014. Et je vous invite maintenant à aller prendre cet apéritif, sauf pour les malheureux membres du Conseil scientifique que j'aimerais bloquer 30 secondes avec leurs agendas, parce qu'il faut qu'on se fixe une séance encore au mois de novembre. Je vous remercie.